Moi, je vais vous dire un truc, vous avouez un truc. Sur le coup de 17h, là, j'ai une espèce de crampe à l'estomac de trac. Le trac de la vedette. Est-ce que mon message va intéresser? Ça devient douloureux, hein. Ça devient douloureux. Et une fois qu'un message est passé, est-ce qu'un autre message sera pris? Une autre fois. C'est comme les vedettes. On peut réussir un coup, mais est-ce qu'on peut se maintenir? Voilà. Voilà notre affreux dilemme tout au long de l'année.
Voilà, je viens d'écouter tous ces messages sur le répondant de là-bas si j'y suis et je me dis que ça fait quand même du bien. C'est comme autant d'étoiles qui viennent nous tuer cette nuit. J'ai l'impression que notre vie elle est quand même difficile. On est confronté à un quotidien, à l'indifférence. Et je me demande pourquoi avec tous ces gens-là on n'arrive pas à se retrouver, à avoir suffisamment de force. Peut-être qu'un jour ça viendra. En tout cas moi dans ma pratique, je suis médecin dans une institution qui s'occupe d'enfants autistes. Et on est tous les jours confrontés à l'irrespect vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des équipes qui travaillent durement. Et c'est parfois désespérant. Voilà. Au revoir.
Bonjour. À France Inter, on s'inquiétait. Il ne parle plus. Il n'a rien dit. Depuis 2005, plus rien de lui. Alors dans les journaux, on commentait son silence. On en parlait quand même. Nous a-t-il oublié? Comment nous passer de lui? Et s'il allait se dissoudre dans le silence? Et puis le 13 janvier 2005. Alléluia, Hosanna, Inch'Allah. Il a parlé, il a dit. Et depuis, sur France Inter, on glose sur ce qu'il a dit, ce qu'il voulait dire, ce qu'il va dire. On revit. Il est toujours là, il. Tiens, j'ai pas dit son nom. Salut, devinez.
J'ai entendu une nouvelle curieuse sur France Inter. Il semblerait qu'il y ait un député de droite là qui propose un statut de sénateur à vie pour les anciens présidents. Cela concernerait probablement Monsieur Jacques Chirac. Et moi, ça me fait penser que la République ressemble de plus en plus à une République chilienne. On a quelques problèmes comme ça avec un dénommé Pinochet. C'est quand même fou, hein, la démocratie, comment elle barre en couille. Ciao, Daniel.
Oui, bonjour, ici Daniel de Gérardmer. Aujourd'hui, c'est le 298e jour que Madame Benedetta Berdica, réfugiée albanaise, et ses deux enfants sont maintenus en situation irrégulière par Monsieur le préfet des Vosges et Monsieur de Villepin, qui refusent de lui délivrer une carte de séjour, en dépit des instructions formulées le 22 mars dernier par Monsieur Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Il apparaît que Madame Berdica et ses enfants sont les victimes innocentes de luttes d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi, ne les oublions pas.
Voilà les messages du jour sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Quelques messages, effectivement. Je ne savais pas que c'était un tract pareil. Un trac, pas un tract. Un trac pareil pour certains auditeurs, enfin une certaine auditrice en tout cas. Je dis tract parce que j'ai sous les yeux le résultat de l'audience moyenne par programme de France Inter. On vous l'a dit, l'audience d'Inter a monté un peu depuis le dernier sondage, et spécialement là-bas, enfin spécialement, non, entre autres là-bas si j'y suis, avec une augmentation de à peu près 40 000 auditeurs de plus qui nous ont rejoints depuis les deux derniers mois, donc merci à tous. Aujourd'hui, une émission un peu particulière. Vous savez que dans quelques jours, le 27 janvier, on va commémorer le 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par les soviétiques, et vous vous dites, ah, revoilà la mémoire, revoilà le devoir de mémoire. Et qui oserait dire qu'il y en a trop, qu'il y a trop de mémoire? Qui oserait dire que trop de mémoire nuit à la mémoire? Qui oserait? Eh bien, Edith Zertal, elle ose. Edith Zertal, c'est une historienne israélienne, très célèbre dans son pays, qui est professeur d'histoire à l'Université hébraïque de Jérusalem, et qui publie ces jours-ci un livre intitulé « La nation et la mort » aux éditions de La Découverte, « La nation et la mort, la Shoah dans les discours et la politique d'Israël ». Alors c'est un livre qui va faire date et peut-être qui va choquer certains inconditionnels d'Israël, certains ultrasionistes pour qui toute critique d'Israël relève de l'antisionisme et tout antisionisme révèle l'antisémitisme ou relève de l'antisémitisme comme on voudra. C'est vrai qu'avec la fragile embellie que connaît le Proche-Orient, on les entend un peu moins. Et puis avec le temps, leurs furieuses ficelles ont fini par se voir et par lasser. Et il n'y a pas que Le Pen pour ne plus faire recette. C'est une occasion supplémentaire pour lire sereinement le livre d'Edith Zertal qui décrit et qui analyse tous les liens, ou la plupart des liens, parce qu'ils sont très nombreux et très complexes, liens qu'Israël entretient avec la Shoah comme une raison d'être, la Shoah comme un héritage, la Shoah comme une sacralité, la Shoah comme un moyen d'instrumentalisation. C'est tous ces aspects, entre autres, qu'elle aborde dans ce livre, qui fera un livre d'histoire, qui va rentrer évidemment dans l'histoire. Chaque communauté, dit-elle, chaque communauté frappée par le malheur a sa propre façon d'être malheureux. Et elle nous apprend un mot allemand, Edith Zertal. Selbstdenken. Selbstdenken, ça veut dire penser par soi-même. Et elle utilise ce mot en évoquant la figure d'Anna Arendt, pour qui elle a une grande admiration. Elle va évoquer cette figure. Et pour qui l'expression solitaire et solidaire à la fois donne l'impression d'avoir été inventée. Mais ça pourrait être aussi bien inventé pour Edith Zertal, avec qui on va passer 7 heures. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
L'agence de régression humaine veut éliminer le service de chirurgie du centre hospitalier de Champagnole dans le Jura. Donc, venez manifester votre opposition à ce projet avec l'équipe du CH de Saint-Afrique le samedi 15 janvier à 10h à Champagnole. C'était René, infirmier dans le Jura. Merci.
C'est François du Jura. Je vous laisse un petit message pour vous dire que vendredi 14 janvier à 20h30 à Poligny dans le Jura, enfin à côté, à Tourmont, il y a une soirée débat sur les délocalisations appliquées au modèle agricole. Donc voilà, avec une intervenante spécialiste des rapports Nord-Sud. Voilà, c'est organisé par des associations du milieu rural. La ATAC, la Confédération Paysanne, l'Artisan du Monde, le MRJC, le CMR, enfin voilà, tout ce beau monde. Donc venez nombreux, 20h30, salle de Tourmont, le 14 janvier. Voilà, à bientôt, merci.
Quand on s'apprête à se faire bouffer par des cannibales, il y a deux solutions possibles. La première consiste à se résigner, à prier pour que la cavalerie arrive à temps. Et la deuxième consiste à s'informer à quelle sauce on va se faire mitonner pour réfléchir éventuellement à l'assaisonnement. Alors je voulais signaler à tous ceux qui, aux alentours de Vire, désirent s'informer sur l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, profitable et non équitable, que le groupe ATAC Vire, en partenariat avec le cinéma Le Basselin, diffuse le film de Vincent Glin, pas assez de volume, jeudi 20 janvier à 20h. Le film sera suivi d'un débat avec Nicolas Beignès, économiste et membre d'ATAC. Le prix unique de l'entrée, c'est 4,10€. Donc nous vous attendons nombreux jeudi soir à Vire, devant le Basselin, pour participer à ce débat. Voilà, salut.
Bonjour Daniel Mermet, et à vous et à toute votre équipe. Je signale que ce soir, à la Halle aux Toiles de Rouen, il y a une conférence avec Monsieur Yves Salès de la Fondation Copernic et avec Monsieur François Dufour. Voilà, je vous remercie. Au revoir.
Ta poitrine sur ma poitrine, hein, nous irions, ayant de l'air plein la narine, aux frais rayons du bon matin bleu qui vous baigne du vin du jour. Quand tout le bois frissonne et saigne, muet d'amour, de chaque branche, goutte verte, des bourgeons clairs, on sent dans les choses ouvertes frémir des chairs. Tu plongerais dans la luzerne ton long peignoir, divine avec ce bleu qui cerne ton grand œil noir. Amoureuse de la campagne, semant partout comme une mousse de champagne ton rire fou. Nous regagnerions le village, au ciel minoir, et ça sentirait le laitage dans l'air du soir. Tu viendras, je t'aime, ce sera beau, tu viendras, n'est-ce pas, et même, et elle. Mais le bureau.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Edith Zertal, La Nation et la Mort, la Shoah dans le discours et la politique d'Israël. Edith Zertal, alors je suis content qu'on se retrouve ici à Paris. La dernière fois, c'était chez vous à Tel Aviv. Et ben, depuis, votre livre est publié en français, dans une version française. Le livre s'appelle « La Nation et la Mort ». C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais je me souviens que après cet entretien qu'on a vu ensemble à Tel Aviv, vous nous aviez dit « Oui, mais cet entretien, vous me l'enverrez une fois le montage fait, parce que j'ai peur que ce que je dis et ce que j'écris soit mal interprété, serve des gens que j'ai pas du tout envie de servir, c'est-à-dire des droites, d'extrême droite, des ennemis d'Israël. Pour moi, Israël est légitime, il est même pas question de d'évoquer la légitimité d'Israël. »
C'est bien interprété cette fois. Ce que vous dites. C'est oui. Vrai, pour moi, la légitimité d'Israël n'est pas du tout en question. Ça va de soi, comme la légitimité de la France. Aucune différence pour moi. On peut critiquer la politique d'Israël. D'ailleurs, je suis une critique de la politique d'Israël, mais pas l'existence d'Israël. Pour moi, c'est un fait tout à fait, non seulement légitime, mais souhaitable. C'est mon pays, c'est le pays de ma famille, de mes amis, de...
Mais est-ce qu'Israël est menacée?
Je pense qu'elle est menacée par l'intérieur, plus que
par l'extérieur.
Je pense qu'il y a des forces dans Israël qui agissent contre même les intérêts les plus profonds d'Israël, l'existence même d'Israël.
On va reparler de tout ça. L'autre crainte que vous aviez quand on s'est séparé, c'est que
j'espère que vous n'allez pas divulguer toutes mes craintes.
non, mais celle-là, je m'en souviens. C'était que votre travail et vos paroles puissent servir vos adversaires, qui sont les miens aussi. J'ai l'impression qu'en effet, les historiens, les chercheurs qui travaillent sur Israël, sur l'histoire d'Israël, sur le fondement d'Israël, sur l'histoire de la naissance d'Israël, c'est-à-dire sur la Shoah, ont peur que leurs recherches ne servent leurs adversaires.
Oui, écoutez, on vit dans un temps qui est très, très compliqué, complexe, et fragile et délicat. Et comme je fais de l'histoire critique, comme je lis d'une manière critique l'histoire d'Israël, les textes fondamentaux d'Israël, les mythes fondamentaux d'Israël, et je le fais parce que j'y crois, parce que je pense que c'est important de le faire, mais j'ai toujours une oreille qui est ouverte à ce qu'on peut faire de ce que j'écris. J'ai mes doutes, mes
inquiétudes.
Mes inquiétudes, c'est ça.
D'abord, on va commencer par le commencement, c'est le titre, La Nation et la Mort. La Shoah dans le discours et la politique d'Israël. Pourquoi le titre, La Nation et la Mort?
Premièrement, je pense que c'est un bon titre, c'est un beau titre. C'est la traduction exacte du titre en hébreu, Ha'uma ve'hamavet, La Nation et la Mort. Et ce livre parle vraiment de la présence ou de l'omniprésence de la mort dans la vie, dans le discours, dans la politique d'Israël, et la grande mort, la mort de toutes les morts, c'est l'Holocauste, bien sûr, c'est la Shoah. Ce livre parle du lien ou des liens qui sont infinis entre l'Holocauste, entre la Shoah et Israël, Mais il parle aussi, au-delà de ça, de la martyrologie, je dirais, juive israélienne ou sioniste israélienne, qui va au-delà de la Shoah. On a déjà une martyrologie à nous, aux Israéliens, qui se rapporte à l'histoire d'Israël déjà, à nos guerres, à nos morts de guerre, tout ça. On a toute une politique, on a tout un culte, des rituels, des textes qui traitent de la mort. On vit sous le signe de la mort perpétuelle en Israël.
Est-ce que c'est pas toujours le cas? Est-ce qu'il faut pas beaucoup de morts pour créer une nation?
Il paraît que oui. C'est-à-dire, oui, la nation entretient, le nationalisme entretient des liens très, très spéciaux avec la mort. Le nationalisme a besoin de la mort pour se construire, pour se définir, pour se bâtir. Oui, c'est vrai, c'est une notion exacte, universelle. Mais je pense que le cas israélien est un cas spécial à cause de la Shoah. À cause de la Shoah, qui est un événement très, très, très lourd et spécial. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup, non seulement les historiens, les professionnels, mais qui préoccupe comment la Shoah est interprétée, commémorée, mémorisée, comprise, usée,
instrumentalisée,
oui, partout. D'ailleurs, tout événement historique d'importance est toujours instrumentalisé. C'est-à-dire, du moment où on commence à travailler sur un événement historique, il est déjà réifié, instrumentalisé et interprété pour des besoins qui ne sont pas dans l'événement soi.
Qui sont les besoins du présent, les nécessités du présent.
C'est-à-dire, on lit le passé à partir du présent, partir des besoins, des visions, des idéologies, de la politique. On essaye de faire un travail le plus professionnel possible et on a les lois du métier qu'on doit suivre, mais c'est toujours, on peut pas se détacher. On est historique avant qu'on soit historien ou historienne.
Voilà. C'est-à-dire qu'on est assigné à l'exégèse, on est obligé d'interpréter. Il n'y a pas une vérité historique.
Il y a des vérités historiques.
À certains moments.
Il y a des vérités historiques et on fait tous les efforts d'agir le plus nettement possible avec les faits. Mais déjà le choix des faits, déjà la lecture des faits est déjà imprégné de soi, de notre personnalité, de notre gender, de notre...
À quoi, dans quelques jours, à quoi va ressembler cette célébration en Israël? Ce 60e anniversaire de la libération des camps nazis va être célébré de quelle façon chez vous?
Ça, c'est curieux, parce que la journée de Auschwitz, le 27 janvier, n'est pas très célébré en Israël. C'est une journée plutôt européenne. Et nous, on a notre journée de la Shoah, de la mémoire de la Shoah, qui est au mois d'avril. Dans mon livre, je parle de ça. Pourquoi cette journée a été choisie? Pourquoi elle est célébrée? C'est le jour de l'insurrection du ghetto de Varsovie. C'est-à-dire, dans les années 50, c'est l'héroïsme juif qui a été célébré, tandis que la soumission juive, disons la mort en masse des juifs, a été un peu ou occultée ou pas blâmée, blamed, accusée en Israël par le sionisme, par l'État d'Israël, qui se voulait tout à fait nouveau, tout à fait différent de la vie de la diaspora, c'est-à-dire de la vie et du caractère juif de la diaspora. Et l'État d'Israël s'est vu comme le produit d'une révolution qui s'est passée dans l'histoire juive. Une révolution, la création d'un nouveau homme, du nouveau juif, un juif qui prend en main sa destinée, qui se bat, qui travaille, qui produit, qui devient productif, tout au contraire au stéréotype du juif diasporique.
C'est ça.
qui est allé comme un mouton à l'abattoir pendant la Shoah.
Oui, cette idée de l'homme nouveau n'était pas exclusif à Israël.
Non,
on était dans des périodes où en Union soviétique aussi on fabriquait un homme nouveau.
Et dans d'autres révolutions, même la Révolution française s'est dit d'avoir produit un nouvel homme, une nouvelle ère. C'est toujours un nouveau calendrier, un nouvel homme. Et la révolution sioniste était dans cette ligne, allez.
Poser une question que vos étudiants doivent toujours vous poser ou qu'on vous pose pas. Est-ce que Israël aurait existé sans la Shoah?
Écoutez, il y avait une communauté sioniste assez robuste avant la guerre, dans les années 30. Mais je pense que la Shoah, la catastrophe, ce cataclysme qui a été reconnu comme tel, a contribué beaucoup à la reconnaissance internationale de cette entité juive sioniste en Palestine. Il y a une ambiguïté profonde, c'est-à-dire on se sert des rescapés. Les rescapés sont l'arme la plus effective du sionisme pour la reconnaissance d'un État juif. À cause de la catastrophe, à cause de ce qui leur est arrivé. Et quand ils arrivent en Israël, il y a vraiment un certain rejet d'eux. Ils sont occultés, ils sont repoussés même de l'espace public, du jeune État. Parce qu'ils sont, ils vont contre cette idéologie révolutionnaire du nouvel État. Il y a aussi quelque chose de très humain. On peut pas vraiment bâtir une nation combative, combattante, héroïque, etc. Tout en pleurant les passés, pleurant les victimes et accueillant les rescapés. Avec l'amour et la compassion qu'il fallait. C'est-à-dire, il y avait ici une contradiction très très profonde qui agissait contre les rescapés.
C'est ce qui se passe actuellement au Rwanda. Mais cette situation dure jusque quand? Jusqu'en 61, jusqu'au procès Eichmann?
Le procès Eichmann en 61 est un tournant, mais pas aussi profond comme on a tendance de le dire. Je pense que c'était un procès encore plus lent. Je pense que la guerre de Yom Kippour, la guerre de Kippour de 73 a été plus marquante dans ce, parce que pour la première fois, cet état viril, héroïque, qui avait cette victoire énorme de 67 derrière lui, se trouvait vraiment dans une situation précaire et de fragilité. Et la fragilité de Yom Kippour, de la guerre de Kippour, a permis aux Israéliens, pour la première fois, je pense, de commencer à comprendre la situation holocaustique. Et sans comparer les situations, mais pour la première fois, Israël était en vrai danger. Du moins, on avait le sentiment que peut-être le projet sioniste se rapprochait à sa fin. C'était en 73.
Ah, j'ai pensé que c'était en 67, au moment de la...
Non, moi je pense que là, il n'y avait pas vraiment une angoisse profonde. C'était une angoisse qui était plutôt organisée, orchestrée, dans la période qui a précédé la guerre de 67. Et je parle de ça, comment le discours qui a été produit par le procès Eichmann a agi... Et dans les années 64, 65, 66 et 7, et qui a amené à la façon dont a été comprise et interprétée la période avant la guerre de 67, et qui a aussi eu des effets sur la politique de cette guerre. Comment on a agi, par exemple, le coup préventif, c'est-à-dire Israël a commencé la guerre pour éviter une autre Shoah. Mmh. Tandis qu'il n'y avait pas de danger réel pour une autre Shoah. Israël était déjà très très fort du point de vue militaire. Il n'y avait aucun danger existentiel en 67.
C'est-à-dire, dans tous les épisodes historiques qu'on est en train de citer, 48, 61 Eichmann, 67 la guerre des six jours, 73 Kippour, etc., on peut continuer. À chaque fois, il y a référence à la Shoah.
Oui.
Tout le temps, il y a référence à la Shoah.
Tout le temps.
Et tantôt, alors, à quel moment, c'est très difficile, question très difficile, sur votre bouquin il répond, mais à quel moment est-ce qu'il y a instrumentalisation volontaire? À quel moment il y a crainte réelle? C'est difficile de définir. Hein.
C'est difficile de définir.
C'est votre boulot.
C'est mon boulot, mais on peut pas vraiment trancher, dire d'ici commence l'instrumentalisation voulue, recherchée, etc. Non, c'est toujours un jeu compliqué et complexe. Mm-hmm. Mais la Shoah est présente tout le temps. Par exemple, vous voyez maintenant, dans la lutte des colons contre l'évacuation, l'usage de la Shoah, ils ont mis des étoiles
jaunes,
pas jaunes, orange.
Oui, Ukraine.
Pour faire une petite différence entre... Mais ils ont mis une étoile. Uh-huh. Et ils ont pris une image qui est très, très connue d'un enfant
du ghetto
du ghetto de Varsovie qui est... une icône de la Shoah qui brise le cœur chaque fois. Ils se prennent pour cet enfant du ghetto de Varsovie. Et ils ont pris des images des trains, des déportations. Et ils
Sauf
se
que
voient...
Hitler, c'est Sharon, là, dans leur esprit.
Non, mais pour eux. Ils disent pas ça, mais ils disent que l'État d'Israël est une représentation un peu tardive du même projet nazi de annihilation de juifs. C'est aberrant.
Die französische Polizei hatte auch Kinder erfasst. Ich wurde von Paris aus angefragt, was mit diesen Kindern nunmehr zu geschehen hätte.
Trait de caractère, très actif, bon camarade, ambitieux, fraîcheur d'esprit, prononcé, connaissance et formation, très bonne dans sa spécialité, don et capacité, négocier, parler en public, organiser, impression générale, personne énergique et impulsive, possédant les capacités pour administrer son activité, spécialiste reconnu dans son domaine, fidélité à l'égard des conceptions national-socialistes, inconditionnelle.
Voilà, extrait du film de Ronnie Broman et Yael Sevan, un spécialiste, paru en 1999, autour du procès d'Eichmann, de 1961. Et puis, le bruit que vous entendez derrière moi, c'est une machine à fabriquer des barbelés. C'est un reportage qu'on a fait il y a 2 ans, je crois, et on était allé dans le sud d'Israël, vers Beersheba, je crois bien, où on avait rencontré le directeur de cette usine qui fabriquait des barbelés pour le mur de défense, pour la barrière de sécurité. Et voilà, deux éléments qui symboliquement, évidemment, alors Eichmann n'en parlons pas, mais les barbelés qui renvoient à la Shoah. Edith Ziertal publie, historienne israélienne, publie un livre important qui s'appelle « La nation et la mort, la Shoah dans les discours et la politique d'Israël ». Et vous le savez, dans quelques jours, le 27, on va commémorer la libération d'Auschwitz, le 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Donc c'est une occasion avec cette grande historienne, Edith Ziertal, de réfléchir sur les liens entre Israël, l'histoire d'Israël et la Shoah. Alors ce que vous dites souvent dans votre travail, c'est que ce recours permanent à la Shoah, cet usage de la Shoah, finit par user la Shoah. C'est-à-dire que, instrumentalisation ou non, comme vous dites, c'est extrêmement difficile de définir ce qui est instrumentalisation cynique, calculée à des fins de stratégie politique, ou bien des intoxications des esprits, ou bien des sensibilités qui s'emballent comme ça. Mais toujours est-il que la volonté de garder à la Shoah son unicité, son caractère absolument unique, ou en grande partie unique, ne s'accorde pas avec cet usage permanent qui use.
Ça dévalorise énormément le sens, le fait de la Shoah. Et si chaque incident historique ou est comparé à la Shoah, qu'est-ce qui restera de la Shoah? Et je pense que c'est une politique qui est vraiment nocive de tout point de vue. Mais ceux qui parlent au nom de la Shoah sont le premier à la nier d'une façon. C'est-à-dire, Israël est devenu, je le dis, avec beaucoup de prudence, je pense, mais il faut le dire, un pays qui, par l'usage inflationnel et un usage cliché, stéréotype, qui n'émane pas d'un vrai savoir, et ça amène à un certain négationnisme. Et Israël en fait énormément. Et alors, d'un côté, on veut que tout le monde reconnaisse la Shoah comme un événement tout à fait unique dans les annales de l'humanité. Et de l'autre côté, on abuse de la Shoah tous les jours.
Mais ça, ce discours-là, il est intéressant parce que il vient d'une israélienne, il vient d'une historienne israélienne, il vient d'une critique d'Israël même. Alors que cette lutte contre la banalisation, elle est en général comprise comme venant de l'extérieur, venant du monde des gentils, venant de chez nous, venant des pays qui portent toujours, d'une façon ou de l'autre, un certain fardeau moral. Oui. Or là, vous nous dites non, nous aussi, en Israël, on banalise aussi la Shoah. Mais est-ce que c'est pas le sort de tous ces mythes fondateurs, ce qui fonde les États? Est-ce que tout ce qui est sacré ne s'expose pas au sacrilège, forcément?
Oui, je pense que la sanctification a toujours le côté de banalisation. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas sanctifier la Shoah. Il faut la savoir, il faut l'étudier, il faut aller jusqu'au bout pour comprendre comment ça a été possible et quelles sont les circonstances qui permettent une telle catastrophe. Un tel massacre, ça, il faut aller jusqu'au bout et sans avoir peur de la vérité de la Shoah ou des vérités de la Shoah. Mais parce il faut ça, pas ça. Sanctifier, parce oui, que ça, oui, oui. Ça a été fait par des humains, aux humains, c'est-à-dire il faut regarder la Shoah vraiment et comme un événement tout à fait humain et qui peut se reproduire si les circonstances et viennent, mais dans toute leur complexité. Je suis contre une sanctification, je suis contre une mythification de la Shoah. C'est pas du tout un mythe, c'est un événement historique qu'il faut...
Et ça, c'est une prise de position forte, ce que vous dites là. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'être une position d'une intellectuelle, mais c'est une position très très forte. Pour certains, la Shoah est entourée d'une sorte de halo sacré, c'est incompréhensible, on ne saura jamais, il y a une part d'incompréhension, une sorte de chose qui est arrivée et qui ne peut pas être comprise, c'est le cas de certains intellectuels français, des plus éminents, et puis il y a ceux qui, comme vous, pensent qu'il y a de l'impensé, de l'impensable dans la Shoah, mais qu'il faut quand même tenter de le penser, même si c'est pas vous qui irez au bout de l'histoire, qui arriverez à tout comprendre, peut-être qu'un jour on arrivera à comprendre ce qui s'est passé. Et une généalogie peut-être de la Shoah. Enfin.
Et peut-être non. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas comprises jusqu'au dernier détail, disons. Mais il faut faire un effort et il faut démystifier la Shoah et démythifier la Shoah. Et je pense que je ne suis pas la seule à le penser, à le dire. Je pense que la mythification de la Shoah, c'était un projet qui était fait dans les années précédentes, dans les décennies précédentes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a et quand j'ai dit démythification, je ne nie rien à la Shoah, au contraire. Je veux que tout le monde ou que le plus de gens sachent exactement ce qui s'est passé et pourquoi les nazis ont fait ça et pourquoi les juifs étaient des victimes et comment ça a été fait et comment ça a été exécuté au cœur de l'Europe sans que les États européens interviennent. Tout ça, c'est des questions qu'il faut apprendre, qu'il faut poser, qu'il faut étudier jusqu'au possible.
Edith Dertal, est-ce que vous pensez que les célébrations auxquelles on va assister, les musées, presque tout le livre de votre collègue Peter Novick, l'Américain, l'Holocauste dans la vie américaine, tourne autour du musée de l'Holocauste de Washington. C'est un des prétextes, en fin de son livre.
Un pilier de...
C'est un des piliers de son livre. Qu'est-ce que vous pensez de la... de cette mémoire, de devoir de mémoire. Vous citez Borges, à un moment dans votre livre, avec l'amnésie.
Funès.
Voilà, c'est
mémorieux.
Ça. Ouais,
Funès,
c'est ça.
Qui a trop de mémoire
trop
dans
de
sa tête.
Mémoire.
Il est malade de mémoire.
Oui.
Moi, je pense qu'il y a cette maladie de mémoire. Il y a
en Israël ou partout?
Partout. Et je pense encore une fois que cette maladie de mémoire est une façon d'amnésie. C'est-à-dire trop de mémoire amène à une amnésie, amène à une à forgetfulness. Et non, écoutez, une mémoire, c'est une force. C'est une politique. La mémoire est toujours politisée. Elle sert toujours dans le plan individuel, dans le plan collectif. Et c'est toujours, il n'y a pas une mémoire percée. La mémoire, c'est un instrument. Et on se fait une mémoire, on oublie des choses qu'on peut pas, dont on peut pas se souvenir, du point de vue économique, économie personnelle, et émotionnelle, etc. Mais c'est pareil pour un collectif. Et je pense qu'il y a trop de mémoire et que cette mémoire va contre le savoir. Elle va contre l'étude approfondie et la compréhension. La mémoire aide à mythifier les choses, et elle aide aussi à instrumentaliser les choses et à célébrer les choses, tandis qu'il faut étudier plus que célébrer.
Le gouvernement israélien vous appellerait en disant, Madame Zertal, ça peut arriver un jour, peut-être pas celui-là. Ou le gouvernement français vous dit, écoutez, on aimerait que vous nous donniez une idée sur la façon d'enseigner la Shoah chez nous. On vous donne carte blanche pour à quoi pourrait ressembler l'enseignement de la Shoah dans l'enseignement.
Ça c'est trop vaste. C'est un autre sujet. Premièrement, le gouvernement israélien ne m'invitera pas à leur donner des leçons sur la façon d'enseigner la Shoah. Mais j'enseigne la Shoah, moi. Et je l'enseigne en tant que histoire juive, histoire européenne, histoire allemande. Et là, il y a quelque chose de très neuf, de nouveau. Et parce que Israël a créé un lien vraiment indissoluble entre la Shoah et l'État d'Israël. C'est-à-dire, c'est Israël qui voit la Shoah comme une étape presque nécessaire pour l'établissement d'Israël. Vous voyez ce que... Et moi, je pense que la Shoah, c'est un événement à part, qui n'a historiquement, c'est-à-dire les nazis n'ont pas fait ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait un État juif après la Shoah, pas du tout. Et moi, je pense que c'est très dangereux de lier de cette façon la Shoah et l'État d'Israël. Et je parle de ça. D'ailleurs, je ne suis pas la seule qui le dit. Le premier qui le dit, qui parle de ce lien fatal entre la Shoah et Israël, c'est James Young. C'est un chercheur et américain, historien, un expert de culture, des études culturelles, James Young, américain, qui l'a dit. Et moi, je pense que la façon dont la Shoah est interprétée en Israël est erronée à cause de ce lien fatal qui a été créé entre la Shoah et l'État d'Israël. C'est-à-dire la façon dont Israël regarde la Shoah comme une étape nécessaire, historique nécessaire, qui amenait à la création de l'État d'Israël. Et vous voyez toutes les choses qui s'en sortent de cette interprétation, qui sont horribles. C'est-à-dire que la Shoah est presque non seulement nécessaire, mais une chose positive, parce que ça a mené à la création de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, ça repose sur un mythe juif, sur une tradition juive, que le Messie viendra qu'après des très grands cataclysmes. C'est-à-dire, il y a toujours le temps qui précède la venue du Messie, c'est-à-dire la rédemption finale, là, et ces temps qui précèdent la venue du Messie sont des temps, des cataclysmes, des catastrophes, etc. Alors vous voyez, vous pouvez faire le parallèle. Mm-hmm. Il fallait une Shoah horrible, sans précédent, pour que le miracle laïque de la création d'Israël se produise. Mm-hmm.
De la même façon, l'identité juive, c'est là toujours la grande question, cette fameuse identité juive, ne peut pas se résumer à la Shoah.
Non. Elle ne doit pas. Mm-hmm. Bien que la Shoah y soit pour beaucoup de choses. On peut pas détacher la Shoah de l'identité juive et contemporaine. Et moi, par exemple, qui suis israélienne et qui suis juive, la Shoah est pour beaucoup de choses dans mon identification en tant que juive, en tant qu'israélienne. Moi, je me considère en tant que juive historique. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui me fait juive. C'est la Shoah qui me fait juive. C'est Israël qui me fait juif. C'est pas la religion, c'est pas cette idée imaginaire qui s'appelle le nationalisme juif. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. C'est la culture juive, c'est l'histoire juive, c'est la langue. Mais c'est aussi mes grands-parents qui ont péri dans les camps.
Il y a une femme à qui vous rendez, on peut dire, hommage hein, dans votre bouquin, c'est Hannah Arendt. Et ça nous ramène à 61, au procès d'Eichmann à Jérusalem, où Hannah Arendt, juive allemande, est envoyée par un journal américain, le New Yorker, pour relater ce procès. Et ça va être le début d'une polémique très très violente qu'elle ne va pas remporter sur le coup. Alors à long terme, évidemment, si on vous lit, elle a remporté, vous la remettez à sa place.
Pas seulement moi.
Bien sûr.
Plusieurs gens lui ont rendu justice. Mais c'était une justice un peu tardive. Et oui, écoutez, elle est absolument mon héroïne intellectuelle. Je pense que ça serait même indécent de le dire, mais je vais le dire quand même, parce que elle n'a pas besoin de moi pour que ça soit dit, mais c'est un des philosophes les politiques les plus importants du XXe siècle. On peut pas comprendre le XXe siècle sans les travaux fondamentaux de Hannah Arendt. Et pas seulement Eichmann à Jérusalem, mais là, elle a ses livres sur le totalitarisme, elle a ses livres philosophiques sur la révolution, sur l'état humain, The Human Condition. Ce sont des livres fondamentaux pour vraiment pour comprendre l'homme moderne, pour comprendre la politique, pour comprendre l'état moderne, pour comprendre l'espace public. Ce sont des travaux qui sont vraiment cruciaux pour comprendre le sionisme, à mon avis, et pour comprendre Israël. Et elle c'était une philosophe, une penseuse brillante et critique, et c'est pour ça qu'elle a été occultée en Israël pendant très 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 longtemps.
J'ai noté un mot que vous citez, c'est Selbstdenken,
oui,
c'est penser par soi-même.
Penser par soi-même, soit être autonome, absolument autonome, mm-hmm. pour mm-hmm. soi, par soi, mais entretenir des relations tout à fait ouvertes avec les autres gens autonomes, les autres gens qui pensent pour eux-mêmes, et entretenir ces relations ouvertes avec le monde, et créer le monde à nouveau tous les jours. C'est ça la pensée de Hannah Arendt, mmh. c'est ça le...
Edith Zertal, de tous les usages et les abus à partir de l'expérience de la Shoah, ce dont parle Peter Novick, ce dont vous parlez, il y a une partie de votre livre qui traite de l'utilisation de la Shoah dans le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. Et vous avez tout un passage sur la nazification des Arabes, sur la nazification des Palestiniens très tôt, enfin dès 48, parce que l'histoire commence avant, mais il y a une nazification des Palestiniens.
Oui, ça se fait peu à peu, ça prend, disons, un corps assez important, et lors du procès Eichmann, quand le mufti de Jérusalem, Haj Amin el-Husseini, est présenté et représenté lors du procès, même dans, lors des procédures, légal, il est représenté comme un des designers de la solution finale, c'est-à-dire il est représenté comme un grand nazi du niveau de tous les nazis importants, Goebbels, Heydrich, Himmler, etc. Cette infiltrée dans des livres scientifiques. Le Haj Amin el-Husseini, ce leader religieux, nationaliste, fanatique, palestinien, est comparé au plus grand nazi. Par exemple, dans une encyclopédie de la Shoah, qui a été publiée partout, je pense aussi en France, l'entrée, mm-hmm. Qui est dédiée à Haj Amin el-Husseini est aussi grande que celle qui est donnée à Hitler et deux fois plus grande que celle qui est donnée à Heydrich et Himmler et Göring. Vous voyez ce que ça fait? Mm-hmm. C'est une banalisation terrible de la Shoah, de la solution finale. Si on prend un leader palestinien qui n'est pas très sympathique au projet sioniste, mais ce n'est pas un grand nazi. Mmh, mmh. D'ailleurs, il a entretenu des liens avec l'établissement nazi, oui, mais c'était pas un grand nazi, c'était pas lui qui a désigné, qui a pensé la solution finale, pas du tout.
Mais Ben Gurion, dès 48.
Ben Gurion l'a dit pour la première fois en 1947 dans un forum clos. Il a dit que ceux à qui nous devrons faire la guerre, qui s'approchent, il le dit en août 47, ce ne sont pas seulement les disciples de Hitler, mais ce sont les professeurs d'Hitler, ce sont les mentors de Hitler, c'est-à-dire ce sont les maîtres penseurs d'Hitler.
Ça c'est une constante, la nazification des Palestiniens. Il y a une nazification aussi de Arafat.
Ça commence et on peut dire que Menachem Begin, le premier ministre du Likoud, prend le pouvoir en 77, et lui, il en fait de ça vraiment une politique tout entière. Et il dit, à la veille de l'invasion au Liban, il dit que la seule alternative à cette guerre de Liban, c'est Treblinka. C'est-à-dire, si on fait pas cette guerre, il y aura Treblinka de nouveau, cette fois en Israël. Alors si ça, ce n'est pas une banalisation de la Shoah, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est cité largement. C'est toute une anthologie de citations de ce genre qui sont très, très présents dans le discours israélien.
Merci Didier Hertel. Je rappelle le titre de son bouquin, La Nation et la Mort, la Shoah dans le discours et la politique d'Israël. C'est aux éditions de La Découverte. D'autres informations, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Par ailleurs, pour soutenir Florence Aubna et Hussein Hanoun Al-Sadi, le site de Siem Ben Sedrine, c'est sbensedrine@yahoo.com, où il y a aussi le site ouvert par RSF, Reporters sans frontières, à obenas.rsf.org. Technique aujourd'hui, Stéphane Devernay et Lidvine Caron, Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Le, Pascariello, c'est l'équipe de Là-bas si j'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, et c'est Christophe Imbert qui en a la lourde charge. On se retrouve lundi à 17h pour Là-bas si j'y suis. On partira au Venezuela, cette fois, pour de vrai. Et au bout de 35 secondes de pub, je vous laisse avec Frédéric Bonneau et son Charivari à lundi. Salut, 17h.